a-t-il encore sur Terre des territoires à découvrir? Se demandent parfois les scientifiques. La carte est-elle pleine? Cette semaine, la Fabrique de l'Histoire reviendra sur les grandes expéditions scientifiques du 18e au 20e siècle, quand les zones non connues des Européens étaient encore nombreuses. Ce lundi, et comme tous les lundis, désormais pendant toute l'année, nous débuterons par le feuilleton d'Anaïs Quien, La fabrique de la guerre froide, dont l'épisode du jour porte sur le massacre de Sétif en 1945. Et puis, avec l'historien Jean-Jacques Marie, nous parlerons de sa nouvelle traduction et édition du rapport Khrouchtchev, c'est au seuil. Enfin, pour commencer notre semaine consacrée au voyage scientifique, eh bien, Éric Joly et Marianne Lemaire, tous deux anthropologues et chercheurs au laboratoire Institut des mondes africains, l'IMAF, au CNRS, nous, et qui publie le cahier de l'expédition Dakar-Djibouti, nous parlerons de cette expédition des années 30 qui se voulait, avec entre autres Marcel Griaul ou encore Michel Léris, mais bien d'autres, un modèle d'expédition ethnographique. Et puis, puisque nous sommes que cette deuxième semaine de rentrée, Anaïs Quien, bonjour.
Bonjour.
Il faut rappeler à nos auditeurs, comme à de bons élèves qui ont rangé tout ce qu'il fallait pour pouvoir partir à l'école, eh bien, qu'il y a désormais, tous les lundis, un nouveau feuilleton, donc, qui a débuté. Je rappelle que vous étiez l'auteur de ce feuilleton sur le centenaire de la Première Guerre mondiale, il y a quelque temps. Et donc, dans la fabrique, désormais, un feuilleton qui s'appelle La fabrique de la guerre froide. Vous nous le représentez brièvement pour
que... Oui, après toutes les célébrations auxquelles on a pu assister en cette année 2015, de 1945 et de la fin de la Seconde Guerre mondiale, il me paraissait utile de revenir sur cette période qui est toujours un petit peu le ventre mou de la culture générale en histoire entre 1945 et les années 50. En général, on s'arrête en 1945, la guerre est finie, ouf, et puis on reprend finalement avec la crise de Cuba, les années 60, Kennedy, etc., le rapport Khrouchtchev, justement, dont on va parler aujourd'hui au milieu des années 50. Et ces années, entre 1945 et 1955, sont toujours très méconnues. Alors souvent lié à l'histoire de la 4e République française, qui est toujours un petit peu compliquée avec ces éruptions parlementaires incessantes. Mais voilà, j'ai voulu travailler cette période pour montrer quelles étaient les lignes fortes qui nous amenaient d'une guerre à l'autre.
Et puis toujours de la même manière, une archive, si possible une archive audio, comme cette fois-ci d'ailleurs pour ce nouvel épisode, une archive audio commentée par un historien et une historienne. Et là, vous avez pris un épisode bien connu tout de même, de ces querelles récentes autour de la colonisation et de son histoire, à savoir le massacre de Sétif en 1945, et c'est l'historienne Malika Rahal qui nous le présente.
We must remember that Australia, New Zealand and Canada
are
all directly
menaced
by this evil power.
President Truman has just announced that Soviet Russia has the atomic bomb.
I believe in the Soviet system. And here I was working for the FBI, the enemy.
La fabrique de la guerre froide. Le 8 mai 1945, on défile dans les rues de Sétif pour célébrer la fin de la Seconde Guerre mondiale. Des drapeaux algériens sont brandis pour rappeler les revendications anticoloniales. La répression policière puis militaire se fait sanglante. 10 jours plus tard, voici ce qu'en dit Jean Amrouche à la radio.
La France a été déchirée par une douleur profonde. En apprenant que le jour même où le peuple s'abandonnait librement à la joie de la victoire, les criminels, abusant de la crédulité et de la misère du menu peuple arabo-berbère, avaient déclenché une sorte de jacquerie. Le sang français a coulé. Certains agitateurs musulmans, inspirés ou non par des agents étrangers, ont cru le moment venu de faire peser sur le gouvernement de la France un ignoble chantage. Profitant de l'affreuse disette qui règne en Algérie, ils se proposaient d'obtenir par la menace, par la provocation et par la violence, une sorte d'abdication de la souveraineté française. Toutes les organisations démocratiques d'Algérie, suivies en cela par l'immense majorité des Français musulmans, ont condamné ces agissements criminels.
c'est tellement le discours colonial, frontal, avec toutes ses caractéristiques de dépolitisation de l'émeute et de la manifestation, d'accusation tout de suite de la main de l'étranger, parce que l'événement est très choquant, donc tout de suite on va chercher une explication par l'extérieur, par les communistes, par l'Union soviétique, pour essayer d'expliquer ce qui se passe. Que c'est très étonnant que ça soit Amrouche lui-même, mais je pense que c'est assez révélateur.
Qui est Jean Amrouche ?
Jean Amrouche fait partie de ces gens qui sont issus de la population colonisée, mais qui, par leur parcours familiaux ou professionnels, par leur mode de vie ou par leur niveau d'éducation, constituent un entre-deux qui est vraiment ultra minoritaire en Algérie à l'époque. Il est à la fois dans un milieu d'instituteur et un écrivain, un journaliste et donc un connaisseur de la société colonisée. Mais je pense que c'est d'autant plus surprenant que de prime abord, il adopte cette interprétation de l'événement que quelques mois plus tard, lui-même et ses amis n'ont plus, en fait, qui est impossible à tenir, en fait, sur la durée.
Et aujourd'hui, que sait-on de ce qui s'est passé ce 8 mai 1945 à Sétif ?
On sait plusieurs choses. On sait d'abord que le 8 mai n'est pas absolument le point de départ. On sait que dès le 1er mai, il y avait des manifestations dans d'autres villes d'Algérie, c'est le cas à Oran par exemple, avec de la répression et des morts. On sait également que le 8 mai ont lieu un certain nombre de manifestations, dont celles du nord constantinois sont particulièrement réprimées, et que ces émeutes font des victimes parmi les Européens. On sait exactement qui sont les victimes européennes des deux semaines de violence. On sait qu'il y a 102 victimes européennes. Ce qu'on connaît beaucoup moins, c'est l'identité des victimes issues de la population colonisée. On sait que la répression a été extrêmement dure, qu'elle s'est effectuée sous la forme d'arrestations extrajudiciaires, d'exécutions sommaires, menées à la fois par la police, par la gendarmerie, mais aussi dans un certain nombre de cas, par des milices menées par les autorités civiles.
La France a été déchirée par une douleur profonde. En apprenant que le jour même où le peuple s'abandonnait librement à la joie de la victoire, les criminels, abusant de la crédulité et de la misère du menu peuple arabo-berbère, avaient déclenché une sorte de jacquerie. Le sang français a coulé.
Les mots qui sont employés sont très forts. C'est vraiment l'interprétation d'une émeute qui est liée à la faim, qui est liée à la pauvreté de la population et qui est déconnectée de toute la mobilisation politique qui a pu avoir lieu pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est déconnectée de toute la montée du mouvement nationaliste et interprétée donc elle comme quelque chose de tribal, des foules affamées qui, pire encore, peuvent éventuellement être manipulées par l'étranger. Et en même temps, c'est la fin de la guerre et c'est une nouvelle donne politique. Et là, les témoignages qu'on a qui viennent des militants nationalistes sont très nets. On sait bien que circulent des textes, que l'on fait référence à ce nouveau contexte international et qu'on sent qu'il y a de nouvelles valeurs politiques, qu'il y a de nouveaux acteurs dans le jeu. La référence aux États-Unis est très forte. La présence anglo-britannique est effective sur le territoire maghrébin depuis 1942 et que donc il y a aussi une situation dont on peut s'emparer pour avancer ces exigences politiques, aller dans le sens de la fin de la colonisation et avancer vers l'indépendance des pays du Maghreb.
Voilà donc pour ce deuxième épisode de notre feuilleton La Fabrique de la Guerre Froide, donc conçu et réalisé par Anaïs Quien et Françoise Camard. On retrouvera un troisième épisode lundi prochain, mais si vous voulez d'ores et déjà garder avec vous chacun de ces épisodes, ils sont téléchargeables séparément du reste de l'émission du lundi, de l'émission du jour. Donc vous pouvez collectionner ainsi La Fabrique de la Guerre Froide jusqu'à la fin de cette saison de La Fabrique de l'Histoire. Bonjour Jean-Jacques Marie.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour la nouvelle traduction intégrale que vous avez réalisée aux éditions du Seuil du rapport Khrouchtchev, rapport sur le culte de la personnalité et ses conséquences, présenté au 20e congrès du Parti communiste d'Union soviétique, dit rapport Khrouchtchev. Alors, y avait-il nécessité, selon vous, à retraduire précisément, comme vous l'avez fait, ce rapport Khrouchtchev, alors que, tout compte fait, il est connu, ce rapport, enfin, on croit le connaître, puisqu'il a été traduit assez rapidement par les journaux internationaux dans la foulée du moment où il a été prononcé devant le 20e congrès, Jean-Jacques Marie.
Oui, dès le 6 juin, la traduction française paraît dans Le Monde, mais cette traduction qui a été constamment reprise, c'est une traduction française de la traduction anglaise, de la traduction polonaise du texte russe original.
Oui.
Alors après un voyage comme ça, vous imaginez le nombre de transformations que ce texte a pu subir. Et alors qu'il a été publié en russe en mars 89, c'est toujours cette traduction assez biscornue que l'on utilise.
Alors, tout de même, vous dites, on n'a pas l'assurance même que le texte original, le texte russe, soit le texte prononcé par Khrouchtchev, puisque c'était un rapport secret, prononcé devant un public choisi, on n'avait pas le droit de prendre des notes, et chacun s'en est souvenu à son avantage ou à son désavantage, mais avec des interprétations différentes. Donc, on ne sait pas exactement ce qui a été dit dans ce petit cénacle à la fin du 20e congrès du Parti communiste en 1956.
Oui, le texte n'a pas été sténographié ni enregistré. Donc, il se peut qu'un certain nombre de saillies du camarade Khrouchtchev aient échappé à la rédaction finale, ou qu'il ait lui-même fait ajouter tel ou tel détail. Mais ça ne peut concerner que des aspects très secondaires du texte. Parce que ce texte est le produit d'un travail collectif au sommet de la direction du PCUS, destiné à être présenté devant les congressistes dans une séance non annoncée au préalable. Donc on est quand même certain que le texte est fiable au moins à 95 ou 96%.
Et contrairement à ce que dit Khrouchtchev soi-même dans ses mémoires, évidemment il n'est pas le seul décideur, le seul auteur de ce texte. C'est un travail collectif, comme vous le dites très bien dans votre texte, Jean-Jacques Marie, que l'on doit d'abord au camarade Pospelov, c'est ça?
C'est ça, l'ancien rédacteur en chef de la Pravda est l'un des 6 auteurs de la biographie officielle de Staline. Mais tout le monde peut changer dans l'histoire.
Je retourne ma veste toujours du bon côté. Oui,
oui, absolument. Donc c'est lui qui a rédigé, avec une commission d'ailleurs, la base du rapport. Et ensuite ça a été discuté, disons, appelons ça le bureau politique, même si le nom avait changé, pendant plusieurs séances, avec des divergences entre eux d'ailleurs. Le plus critique n'étant pas Khrouchtchev lui-même, étant d'autres peu connus, peu importe leur nom d'ailleurs. Et même les ultra-staliniens ont fini, comme Molotov ou Kaganovitch, ont fini par donner leur accord à la présentation de la présentation de ce rapport dans une séance non annoncée au préalable et d'où seraient chassés tous les délégués des PC étrangers.
Anaïs Kien.
Oui, aujourd'hui, ça nous paraît tout à fait entendable de dénoncer les actions et le culte de la personnalité opéré par Staline, par ce rapport Khrouchtchev. Est-ce qu'on arrive à savoir, Jean-Jacques Marie, de quelle façon on a réfléchi à la forme de ce rapport et quels étaient les champs d'action de Staline qu'on allait cibler et peut-être d'autres qu'on allait réserver pour plus tard?
Oui, c'est assez facile à déterminer parce que quel est l'objectif de ce rapport? Il est double. Vous savez, du temps de Staline, vous étiez membre du bureau politique, vous vous couchiez le soir dans votre chambre, vous n'étiez pas certain de ne pas être arrêté le lendemain matin et envoyé fusillé. C'est arrivé à des membres du bureau politique, Tchoubar, Kossior, quelques autres d'ailleurs. Et n'importe quel membre de la nomenclatura, jouissant d'un certain nombre de privilèges dans un pays frappé par la pénurie, était donc incertain. Donc Khrouchtchev, le premier objectif de ce rapport, c'est de dire au sommet de la nomenclatura, vous allez vivre tranquille maintenant. Ce qui s'est passé sous Staline ne se répétera pas contre vous. Et d'ailleurs, à partir de ce moment-là, contre les autres aussi, d'ailleurs.
Mais pourquoi y a-t-il une nécessité de rassurer à ce moment-là?
Parce que la mort de Staline, l'Union soviétique est dans une crise très profonde. Bon, l'abondance y règne dans les colonnes de la Pravda ou de l'Humanité, mais dans la réalité, c'est tout à fait différent. Rappelez-vous que le budget militaire de l'URSS, c'est à peu près 40% du budget, en particulier quand Staline a compris que la bombe atomique sur Nagasaki, et même pour certains historiens, le bombardement de Dresde, c'est un avertissement à lui, enfin à l'URSS et à lui. Donc, il veut créer la bombe atomique soviétique, donc des crédits énormes. Il confie ça à Beria. Il y a des crédits énormes
Beria, utilisés dont à vous ça. Avez écrit une biographie qui est parue il y a 2 ans et qui avait été remarquée chez Talandier.
Merci de me le rappeler. Et il y a donc un pays dans une situation de crise terrible. Et il faut desserrer. Rendez-vous compte que les paysans des Kolkhoziens sont payés à la journée de travail. Mais comme l'État paye aux paysans le blé, la viande, n'importe quoi, moins cher que le prix de revient, vous avez des paysans qui ne touchent pas un copec de toute leur année. Alors ils survivent dans leur petit lopin de terre, mais ça, c'est pas, cette situation ne peut pas durer. Et d'ailleurs, Khrouchtchev va prendre des mesures pour défendre ses paysans. Donc vous avez la nécessité de desserrer une étreinte qui est en train d'écraser ce pays.
Alors on comprend bien, desserrer, rassurer les élites, elles ne seront plus fusillées au petit matin comme c'était le cas sous Staline. Mais il y en a quand même qui ont participé largement à ce régime stalinien. Et d'ailleurs tous ont participé au régime stalinien, et Khrouchtchev au premier chef. Comment faire pour à la fois dénoncer les crimes de Staline sans se dénoncer soi-même, Jean-Jacques Marie?
Ben c'est la question qui sera posée d'ailleurs à ses dirigeants lors des réunions qui vont suivre le prononcé du rapport, puisque Khrouchtchev aura l'idée assez extraordinaire et faire adopter de faire lire ce rapport secret à tous les membres du parti, il y en a 6 700 000. À tous les Komsomol, il y en a 18 millions, jeunesse communiste.
Donc dans le plus grand secret, effectivement.
Et à tous les 100 partis méritants. Alors on ne sait pas si vraiment les 25 millions ont tous assisté à la lecture, mais ça fait quand même un grand nombre de personnes. Et évidemment, la question de la responsabilité va être posée dans ces réunions, où les gens ont le droit de poser des questions. Mais ils ne sont pas sûrs d'avoir des réponses. Mm-hmm. Mais la nécessité est tellement urgente que, Khrouchtchev d'ailleurs fera nettoyer les archives d'un certain nombre de ces actions dans la répression. Mais évidemment, vous étiez où, qu'avez-vous fait? C'est une question qui est évidemment balayée.
Et puis, une autre question qui est difficile, c'est pour les partis frères. Et le Parti communiste français en est un au premier chef. On se souvient que Thorez était pendant la guerre justement en Union soviétique. Et Maurice Thorez aura beaucoup de mal à accepter ce rapport, à le faire accepter même au parti. Et il faudra très longtemps, expliquez-vous dans votre introduction à ce rapport, Khrouchtchev, publié chez Au Seuil, Jean-Jacques Marie, 1977, pour reconnaître au bout du compte que ce rapport était véridique. Mais néanmoins, on voit toutes ces tergiversations, et vous les racontez bien dans votre introduction, avec ceux qui l'ont lu dans la version polonaise, qui disent à Thorez, on ne peut pas faire autrement, et Thorez qui lui répond, on dira que c'est un faux, par exemple, avant de voir...
Oui, c'est Agent Pronto, je crois.
Ouais, c'est Agent Pronto. Ou Jeannette Thorez-Vermersch qui dit, nous ne sommes pas de ces nains qui crachent sur les tombes des géants quand elle apprend l'existence de ce rapport. Et il y a une archive enregistrée, celle-ci, qui a été publiée il y a quelque temps dans un journal qui était, je crois, le journal Regard, journal du Parti communiste, comme une sorte de bonus. C'est justement le moment où Maurice Thorez se doit d'annoncer en mai 1956, qu'il l'a lu, ce rapport, et qu'il ne savait pas trop quoi en faire, puisque les autorités soviétiques l'avaient juste autorisé à lui et quelques autres à le lire, sans l'emporter avec soi, qu'il avait lu rapidement, qu'il n'avait pas pu bien comprendre ce qu'il y avait dedans, et que c'est pour ça qu'il n'en avait pas parlé plus tôt à ses camarades.
Ce que nous n'avons pas dit, c'est ce que nous ne savons pas. Et pour la partie des choses, je dis maintenant ici au comité central, que nous n'estimions pas nécessaire de répéter, nous considérions que c'était en effet là les secrets d'État et les secrets du parti, d'un parti au pouvoir. Ça n'était pas à nous à aller au devant, sous prétexte que la presse bourgeoise commençait la campagne, et sous prétexte, je le dis en toute franchise, sous prétexte que d'autres avaient eu moins de discrétion que nous. Et c'était hâté dans leur parti, peut-être, de donner des appréciations immédiatement publiées, avant même que le Parti communiste de l'URSS lui-même n'ait encore publiquement prononcé une parole sur cette question. Je pense ici, par exemple, aux camarades allemands.
Oui, les camarades allemands qui n'ont pas respecté leurs paroles, qui ne se sont pas tués. Et au bout du compte, on sent bien que cette belle internationale commence à chanter de façon un peu diverse l'air de l'internationale, justement, Jean-Jacques Marie, à ce moment-là.
Bah, l'internationale, d'abord, elle n'existe plus, puisque Staline l'a dissoute le 15 mai 43. Donc, il y a une subordination directe de la direction de chaque parti communiste au Kremlin. Mais le PCF avait été l'un des partis les plus staliniens. Thérèse était à Moscou lors de la mort de Staline. Il était soigné là-bas. Et sa femme, d'ailleurs, Jeannette, avait dit que lorsque Staline avait... Enfin, lorsque la Pravda avait annoncé le prétendu complot des médecins assassins, qu'elle avait grand peur que ces médecins assassins n'aient voulu liquider son cher époux. Et vous aviez une pratique stalinienne dans ce parti qui faisait que Thérèse était évidemment l'un des plus acharnés à essayer de camoufler ce rapport.
Oui, alors néanmoins, on dit cela de Thérèse et du Parti communiste français, mais Togliatti, qu'on présente généralement comme un peu plus avancé en eurocommunisme ou dans la vision d'un eurocommunisme futur, n'est pas beaucoup plus bavard vis-à-vis du Parti communiste italien, par exemple, à ce moment-là, Jean-Jacques Marie.
Non, il n'est pas beaucoup plus bavard. Simplement, comme il est un tout petit peu plus malin que Thérèse, il essaiera de ne pas esquiver complètement la question. Mais finalement, en appuyant sur quelque chose qui est un des éléments de ce rapport, c'est que dans ce rapport, Staline est justifié jusqu'en 1934. C'est-à-dire tout ce qu'il a fait contre les opposants, contre le trotskiste en particulier, c'est justifié totalement. Donc on peut s'en sortir.
Mmh. Oui, on peut dire il y a un bon Staline, un premier Staline, voilà. Comme il y a un jeune Marx et puis un Marx plus âgé, il y a un premier Staline et puis il y a un deuxième Staline qui lui devient fou et ne tient plus les rênes d'une certaine façon.
Ou
les
oui, enfin, Marx n'a jamais liquidé.
Non, bien sûr, c'est pas du tout ce que je voulais dire, bien évidemment. Anaïs Quien.
Et dans les lignes de ce rapport, Jean-Jacques Marie, est-ce qu'on voit aussi la nécessité d'un rapport aux sources, ce que j'appellerais entre guillemets au vrai communisme peut-être que Staline aurait dévoyé depuis 1934?
Alors, Khrouchtchev essaie de donner une sorte de forme à cette idée. Dans ce qu'il utilisera une formule, d'ailleurs, qui, si mes souvenirs sont bons, n'est pas dans le rapport, mais qu'il utilisera à l'époque, enfin, dans d'autres moments. C'est le retour à Lénine. Mais en réalité, c'est un retour à Lénine, d'un Lénine soigneusement sélectionné. Parce qu'il faut se rappeler que le dernier écrit public de Lénine, ce dernier dit... J'espère que nous pourrons tenir dans notre Russie dévastée, ruinée, jusqu'à ce que le socialisme triomphe en Occident. C'est pas vraiment le socialisme d'un seul pays du camarade Staline.
Mais tout de même, les camarades du monde entier n'ont pas rendu grâce à Khrouchtchev d'avoir fait ce geste et d'avoir fait cette déclaration et de l'avoir communiqué. Ce rapport Khrouchtchev a été considéré par beaucoup, c'est ce que vous expliquez dans votre introduction, Jean-Jacques Marie, comme une sorte de début de la fin du communisme. Hobsbawm soi-même, dites-vous, dit que c'est le début de la fin pour le mouvement communiste. Enver Hoxha, évidemment, dit que c'est un rapport odieux. Mathias Rakosi, qui n'est pas un tendre, dit que c'est une hache de pierre et que le marxisme grossier de Khrouchtchev chef a frappé, etc., etc. Enfin, en gros, même Sartre dit que Khrouchtchev a fait une erreur fondamentale en communiquant ce rapport sans l'avoir distillé au fur et à mesure du temps.
Mais les dirigeants des partis communistes du monde entier ont été sélectionnés par le Kremlin soigneusement pendant des années, des années, des années. Ce sont des hommes, disons, choisis par le Kremlin. Ceux qui ne sont pas dans la ligne sont liquidés, éliminés physiquement dans les pays de l'Est. Rappelez-vous les procès Reich, Slansky, Kostov, hein, politiquement dans les pays où ils ne sont pas au pouvoir. Et donc, eux ne sont pas concernés par les problèmes de l'URSS même. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas, eux, ils ne sont pas confrontés, eux, au fait que ce pays est dans une crise effroyable et que la bureaucratie essaie évidemment de trouver une issue. C'est d'ailleurs Beria le premier qui a cherché à trouver une issue à cette crise. Donc, eux... C'est leur propre passé et leur propre sélection qui est mise en cause. Ce ne sont pas du tout les mêmes types de problèmes que ceux auxquels sont confrontés ceux qui dirigent ce pays et qui veulent à la fois maintenir leurs privilèges, leur situation, et en même temps essayer de faire en sorte que les paysans et les ouvriers se mettent enfin un peu au travail.
Et alors, on a dit que vous aviez fait une nouvelle traduction, Jean-Jacques Marie. Pourquoi celle qui circulait quelle est la différence, selon vous, entre celle qui circulait et la vôtre, d'une certaine façon? Est-ce qu'on comprend mieux, par rapport à celle de Branko Lazic ou d'André Rossi, par exemple, ce qu'est le rapport Khrouchtchev avec ces traductions qui venaient, comme vous l'avez expliqué, du polonais, de l'anglais, jusqu'au français, en passant par le russe, langue originelle?
Dans cette traduction qui est au quatrième degré, si j'ose dire, il y a un certain nombre de modifications parfois fâcheuses. Par exemple, bon, Khrouchtchev invente un certain nombre de choses. Quand il explique par exemple que Staline faisait ses plans de bataille sur un globe terrestre, c'est une invention. D'abord, il n'était pas à Moscou pendant la guerre, Khrouchtchev, il ne pouvait rien savoir du tout. Mais par exemple, à un moment, on lit dans la traduction habituelle, traditionnelle, Staline, dans un de ses discours, a dit « on a perdu tout ce que Lénine avait créé ». Alors ceux qui veulent mettre en cause la valeur de ce rapport par rapport à Staline disent « Ah, on a les discours de Staline, ça n'y figure nulle part ». Oui, mais dans le texte russe, il s'agit d'une conversation, et pas d'un discours, c'est tout à fait différent. Vous avez des expressions politiques traditionnelles qui ont un sens, qui ont disparu. Par exemple, Lénine parlait des ouvriers conscients, c'est-à-dire un ouvrier qui est conscient d'appartenir à la classe ouvrière, d'être exploité, etc. Ça devient, dans cette traduction traditionnelle, les ouvriers compétents. Je ne sais pas en quoi d'ailleurs, en serrurerie, en menuiserie, bon... Alors, ce sont quelques exemples, mais il y en a des dizaines. C'est obligatoire, d'ailleurs, quand vous, un écrit traduit de langue en langue diverse. Donc, je dirais pas que cette traduction bouleverse fondamentalement la vision des rapports Khrouchtchev, mais enfin, elle permet d'avoir un texte qui est le texte réel. C'est quand même préférable, parce que malgré toutes ces insuffisances et les buts auxquels il répondait, qui évidemment aujourd'hui n'existent plus, hein, la défense, finalement, de la nomenclatura, de la bureaucratie, il vaut mieux avoir un texte exact, c'est plus pratique quand même.
Merci Jean-Jacques Marie d'être venu présenter donc ce rapport Khrouchtchev dans la nouvelle traduction intégrale que vous avez réalisée et présentée aux éditions du Seuil. Le rapport Khrouchtchev dont le vrai titre est « Rapport sur le culte de la personnalité, ses conséquences » présentées au 20e congrès du Parti communiste d'Union soviétique. Merci encore.
De rien, merci à vous.
France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin.
Donc au sujet de la deuxième partie de cette émission qui elle-même débute la semaine que nous allons consacrer au voyage scientifique entre 18e et 20e siècle, eh bien nous avons le plaisir de recevoir nos deux invités, Éric Joly et Marianne Lemaire. Bonjour à tous les deux. Vous êtes tous les deux anthropologues et chercheurs donc au laboratoire de l'Institut du monde africain, l'IMAF au CNRS, et vous publiez un très très gros livre aux éditions Les Cahiers qui s'appelle Cahiers Dakar Djibouti, où on voit les noms de ceux qui ont contribué à ce cahier, à savoir Griot, Léris, Lipschitz, Lutten, Moucher, Roux et Scheffner, donc membres de cette mission Dakar-Djibouti qui s'ébranle en 1931 jusqu'en 1933 et qui va traverser de part en part, d'ouest en est, le territoire africain. Alors, on a voulu avec Anaïs Quien que vous ouvriez cette semaine, puisque d'abord c'est un gros travail que vous avez mené là tous les deux, donc énorme travail de plus de, allez, ça fait plus de 1000 pages, oui, ça fait 1300 pages.
1400.
1400, allez, allons-y. Je serai honnête vis-à-vis des auditeurs en disant que je les ai pas toutes lues, évidemment, c'est 1400 pages, donc, de ce cahier Dakar Djibouti qui recense justement les articles parus et non paru de ceux qui ont participé à cette histoire. Mais il faut peut-être rappeler à nos auditeurs, d'abord Éric Joly, ce qu'était cette mission Dakar-Djibouti.
Bon, c'est une mission assez connue, en tout cas dans notre milieu, qui a plusieurs caractéristiques quand même assez exceptionnelles pour l'époque. C'est la plus grande expédition ethnographique française c'est aussi la seule expédition ethnographique française qui fait l'objet d'un vote aux deux chambres, hein, par les députés et les sénateurs, pour un financement exceptionnel de 700 000 francs de l'époque. C'est une expédition qui qui est aussi connue parce que elle fait l'objet d'une campagne médiatique très importante.
Préliminaire.
Préliminaire, avec en plus un sponsoring qui est tout à fait innovant.
Vous voulez dire un partenariat public-privé, comme on dirait aujourd'hui.
Exactement.
Innovant, et pourtant, on prend comme modèle la croisière noire qui a eu lieu quelques années plus tôt et qui, pour le coup, est une expédition entièrement financée, non là je me trompe, mais en grande partie financée, en tout cas initiée par Citroën, donc par une entreprise privée.
Oui, c'est en fait il y a deux modèles. En fait, il y a le modèle des expéditions scientifiques, éventuellement naturalistes du 19e siècle, et puis il y a le modèle. Ce modèle-là, c'est plus le modèle scientifique de l'Institut d'ethnologie et du Musée d'ethnographie du Trocadéro, qui sont les deux institutions phares de l'ethnologie à cette époque. Et puis il y a le modèle un peu de Griol, qui est le chef de mission, qui est plutôt une expédition grand public qui doit marquer les esprits et qui évidemment sa référence c'est la croisière noire pour la traversée de l'Afrique, même si c'est dans l'autre sens, et pour cet aspect médiatique important.
Alors, Marianne Lemaire, on va chercher justement, pour orchestrer le battage médiatique, quelqu'un qui sera connu bien plus tard, enfin plus tard, pour ses travaux, là aussi, d'ethnologie de la France, et puis la création du Musée des Arts et Traditions Populaires, à savoir Georges-Henri Rivière, qu'on a repéré. Je crois que c'est Griol qui le repère, ou c'est Léris qui le repère. En tout cas, un des deux le repère et lui dit « Est-ce que vous ne voudriez pas nous aider à monter cette expédition, et en particulier à la montée au point de vue financier, médiatique, etc. Marianne Lemaire.
Alors c'est en fait Paul Rivet qui repère Jean-Henri Rivière. Paul Rivet est depuis 1928 le directeur du musée d'ethnographie du Trocadéro. Et il le repère parce que Jean-Henri Rivière a organisé une exposition déjà très novatrice. Et donc il lui demande d'être le sous-directeur du musée d'ethnographie du Trocadéro. Et effectivement, Georges Rivière est celui qui, parce qu'il est, il est très inséré dans le Paris mondain de l'époque, arrive à monter des campagnes médiatiques très importantes et à faire la publicité déjà un an avant qu'elle ne commence de la mission Dakar Djibouti.
Alors, vous dites campagne médiatique très importante, on va toucher des fortunes de l'époque qui vont être convaincues de la nécessité d'y mettre de l'argent, de soutenir l'opération, c'est cela, Marianne Lemaire ?
Absolument, oui. Il arrive. Enfin, alors il y a l'aspect financier effectivement, mais il y a aussi l'aspect purement médiatique. Enfin, il arrive à mobiliser des journalistes et à impliquer les membres de Dakar Djibouti pour écrire des articles qui vont faire la publicité de la mission.
On dirait aujourd'hui faire le buzz, c'est ça, avant que la mission ne soit démarrée. Éric Joly.
Oui, parce que l'objectif, en fait, n'est pas purement financier, comme l'a dit Marianne Lemaire. L'objectif, en fait, de cette mission, c'est aussi de forcer la reconnaissance institutionnelle de l'ethnologie, qui est une discipline jeune à l'époque. Hein. Disons, on fait remonter la naissance de l'ethnologie française à la création de l'Institut d'ethnologie fin 1925. Donc, c'est une science jeune qui n'a pas encore de chaire. Il n'y a pas encore de chaire d'ethnologie. Et donc, l'objectif, c'est à la fois de professionnaliser l'ethnologie, avec des chercheurs de terrain, c'est pour ça que beaucoup des membres de Dakar Djibouti viennent pour la première fois sur le terrain, même s'ils ont une formation spécifique, et c'est par rapport aux politiques et aux médias, essayer de forcer cette reconnaissance.
Anaïs Kien.
Il y a une véritable originalité dans l'histoire de cette discipline, c'est à la fois ce moment que vous décrivez dans le cahier Dakar Djibouti, ce moment d'organisation de cette mission, ce moment de recherche de légitimité, de scientificité, de publicité pour cette discipline académique, universitaire, de recherche, et à la fois sa présence très, très forte dans le monde de l'art, de la littérature et du spectacle. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très singulier sur la naissance publique, je dirais, d'une discipline. Éric Joly.
Oui, c'est vrai que ça peut sembler paradoxal, mais c'était déjà au moment de la création de l'ethnologie, il y avait la volonté en fait d'unir les sciences de la nature, de la culture et de la linguistique aussi, en s'ancrant une bonne façon en fait de représenter la culture, c'était effectivement de s'ancrer du côté de la culture, de toutes les manifestations culturelles de leur temps et des sociétés exotiques, parce que c'était une spécificité aussi de l'époque. L'ethnologie à l'époque, c'était uniquement leur objet d'étude, c'était uniquement les sociétés exotiques. Ça va évoluer ensuite par le temps. Et effectivement, il y a...
Et de l'espace colonial
français. C'est pour ça qu'on va aller en Afrique. Et effectivement, il y avait des liens, du coup, avec le tout Paris, à la fois mondain et artistique. C'était une façon de... Les membres étaient eux-mêmes liés à ce monde artistique. Enfin, en tout cas, quatre des membres étaient liés au surréalisme. Il y avait des surréalistes dissidents. Il y avait des gens qui travaillaient sur la revue Documents, par exemple, qui était aussi créée par des surréalistes dissidents. Donc, il y avait tout un bouillonnement culturel autour de l'ethnologie.
Et d'ailleurs, la seule publication collective à la suite de ce voyage, à la suite de cette mission, se fera dans une sorte de catalogue élaboré dans un numéro spécial de la revue Minotaur, Marianne Lemaire. Et c'est étonnant de voir effectivement que cette seule production collective ne se fait pas dans un espace scientifique.
Tout à fait, oui, ce sera la seule, contrairement à ce que Marcel Griot l'avait annoncé avant la mission, ce sera la seule publication collective. Ensuite, chaque chercheur publiera dans des endroits différents.
Ça devient compliqué peut-être de leur faire projeter, les liens s'étant largement distendus,
ça devient plus compliqué.
Oui, parce que tout de même, le recrutement de cette petite troupe est un drôle de recrutement. On a un chauffeur qui s'intéresse pas du tout à l'ethnologie, on a un menuisier qui va faire homme à tout faire sur la mission,
il va tout faire
ce qu'il faut pour pouvoir justement faciliter le travail des chercheurs. On a une Deborah Lifshitz, par exemple, dont vous dites qu'elle a donc fait le lycée français de Varsovie, où elle était née à Kharkov en Ukraine, et puis elle s'est installée pour faire une école de bibliothécaire et les langues orientales. Et quand elle se présente, et ça rappelle un peu l'après-guerre telle que l'avait raconté Jean-Pierre Vernant, elle se présente pour cette mission. On lui dit « Vous êtes tout à fait compétente pour faire ce travail-là ». Et Vernant, qui avait poussé la porte du CNRS après la guerre, eh bien le directeur du CNRS dit « Vous n'avez pas besoin de diplôme, votre brevet de résistance vous suffira pour pouvoir devenir un bon chercheur ». Et on a cette impression comme ça de bouillonnement, puisque la discipline n'est pas encore complètement fixée, il n'y a pas vraiment de barrière. Un peu tout le monde peut y entrer, les RIS et les autres, par exemple, Marianne Lemaire.
Oui, en l'occurrence, Deborah Lifshitz, c'est quand même, enfin, bon, elle est licenciée donc, de l'École nationale des langues orientales vivantes. Elle a donc ce diplôme et elle est vraiment reconnue comme une savante, une jeune savante, mais effectivement, elle. En revanche, c'est vrai, vous avez raison, elle illustre bien la diversité de cette équipe. C'est une femme, ce qui n'est aussi pas très courant à l'époque. C'est la Benjamine de la mission. Elle n'a que 25 ans lorsqu'elle rejoint la mission en Éthiopie. Et c'est elle qui va s'occuper de réunir les manuscrits, de les traduire.
Et de vouloir faire vraiment des publications scientifiques, alors qu'ils ont tous un peu envie de faire un peu du littéraire, expliquez-vous, Marianne Lemaire et Éric Joly.
Tout à fait. Enfin, elle n'est pas la seule femme dans le milieu ethnologique de l'entre-deux-guerres, mais elles ont toute la particularité d'avoir préféré approfondir leur écriture scientifique au détriment d'une écriture plus littéraire qui était en revanche largement pratiquée par leurs collègues masculins tels que Marcel Griot ou Michel Léris par exemple.
Et c'est ce qui d'une certaine façon rétrospectivement permet ou autorise les ethnologues ou les anthropologues d'aujourd'hui à jeter un regard critique justement sur cette espèce de bricolage de concepts qui se met en place, mais la discipline est naissante, Éric Joly, il faut bien le rappeler.
Oui, bien sûr. En fait, on est d'ailleurs à un moment. La discipline aujourd'hui n'a plus grand-chose à voir avec les méthodes qui étaient employées à l'époque.
Et c'est d'ailleurs la vertu de ce gros livre que de rappeler, parce que vous y retranscrivez tous ces articles, toutes ces communications, etc., de montrer effectivement que ça n'a pas grand-chose à voir avec l'ethnologie d'aujourd'hui.
D'abord, effectivement, l'objet est très, très spécifique. Toutes les études sur l'Europe sont exclues à l'époque de ce qu'on appelait toutes les études études folkloristes, comme on les appelait à l'époque, sont exclues en fait du champ des études ethnologiques à l'époque. Elles reviendront après la guerre. Ensuite, c'est vraiment il n'y a pas de théorie hein, dans cette ethnologie française des années 30, même s'il y a des courants, l'école de sociologie française par derrière. Mais c'est vraiment la méthode qui est mise en avant. Il faut prouver sa scientificité par une méthode rigoureuse, rapide, avec un collectif qui soit pluridisciplinaire. On est très loin de l'observation participante à une ou deux personnes qui fera un peu la spécificité de l'ethnologie après-guerre.
Anaïs Quien.
Et c'est peut-être d'ailleurs le pari de cette mission de mettre à l'épreuve les pistes, les intuitions méthodologiques qu'on a depuis Paris. Il faut rappeler peut-être aussi qu'à ce moment-là, le musée du Trocadéro, le musée qui est censé représenter une partie de cette discipline, ou en tout cas qui la croise, et d'ailleurs vous le rappelez dans votre ouvrage, Éric Joly, est un grand cabinet de curiosité. Les objets sont très peu documentés et sont montrés pour leur valeur esthétique, bien plus comme témoignage de civilisation, comme on peut le voir aujourd'hui au Quai Branly.
Oui, mais justement, c'était au moment où Paul Rivet prend la chair dont dépend et au moment où il rattache en fait le musée d'ethnographie au Muséum national d'histoire naturelle, il cherche à rénover ce musée. Le pari de nommer quelqu'un, un autodidacte comme Georges-Henri Rivière, comme sous-directeur, est évidemment un élément important de cette rénovation. Et donc là, ils veulent changer ce musée de cabinet de curiosité en musée vivant, ouvert à la fois aux ouvriers, au tout Paris mondain et artistique. Et évidemment, le musée d'ethnographie, en plus, va bénéficier de tous les objets qui vont être récupérés par la mission.
Alors tout de même, il y a des choses très intéressantes dans cette mission Dakar-Djibouti. D'abord, on n'est pas les mêmes avant la mission qu'après la mission. On voit bien, et vous le montrez bien dans votre ouvrage commun, que leur vision évolue par rapport à la colonisation. Ben, il faut aussi, à la fois, on est soutenu par le lobby colonial, donc il faut pas dire forcément du mal de la colonisation, mais on sait combien des gens comme Léris ou d'autres vont prendre leur distance par rapport à ça. Il faut à la fois servir et desservir ce souci colonial. Et vous expliquez, Marielle Lemaire et Éric Joly, que par exemple, l'importance croissante des portraits tout au long de cette expédition qui va laisser place à une vision holiste des sociétés africaines. On va petit à petit tirer des gens, les rencontrer et en faire des individus propres, ou encore que tout cela est sous-tendu par la crainte de la perte des langues, de la perte des traditions, un peu comme avant la Première Guerre mondiale, Ferdinand Bruno avait eu peur de voir perdre les accents et les parlers régionaux en France en lançant les archives de la parole, Marielle Lemaire.
Oui, il y a en fait une double évolution au cours de la mission et dans sa suite immédiate. Concernant le regard sur les objets, on en parlait tout à l'heure. En fait, les objets au départ devaient être récoltés dans leur ensemble, c'est-à-dire les objets usuels, les objets du quotidien devaient être pris en considération. Et en fait, ils ne le seront pas. Il y aura tout petit à petit un goût pour les beaux objets qui va s'affirmer et qui ne va pas cesser de s'accentuer ensuite.
Éric Joly.
Oui, les beaux objets et les objets qui relèvent aussi du monde sacré en fait, ils vont effectivement axer sur les peintures religieuses, sur les masques, ça va être. Et puis deuxième évolution, effectivement, c'est ils sont partis avec l'idée, c'est un paradigme disciplinaire, que toutes les sociétés qu'ils allaient visiter étaient condamnées à une disparition rapide.
Parce qu'elles n'étaient pas adaptées à la modernité qu'elles
voilà, parce qu'il est considéré comme des sociétés figées, et donc avec les bouleversements actuels, ils étaient condamnés. Évidemment, c'était une vision fausse. Du reste, en fait, une des sociétés qui vont visiter en 1931, les Dogons vont devenir une société qui va être ultra ethnographiée par la suite, y compris notamment par Griol. Donc, elle n'a pas du tout disparu. Et effectivement, ça, finalement, finalement, cette ethnographie de sauvetage va disparaître au fur et
à mesure de l'avancée.
Au fur et à mesure. En plus, cette paradigme était contradictoire par rapport à un autre objectif de la mission, à savoir aider les coloniaux à administrer les populations,
les administrateurs coloniaux en particulier.
Les administrateurs, parce que effectivement, si l'objectif c'est de travailler sur des populations qui vont disparaître, on voit pas très bien en quoi ça aide les administrateurs coloniaux. En fait, cette aide aux administrateurs coloniaux était un pur prétexte. En fait, ce que cherchait l'ethnologie de l'époque comme cette mission, c'était plutôt de mettre les coloniaux au service de l'ethnologie et au service de la mission.
Anaïs, qui
a... Il y a une autre chose que vous notez à la fin de l'ouvrage, Marianne Lemaire, c'est la difficulté finalement et l'échec aussi de cette mission à véritablement exploiter la possibilité de d'avoir des chantiers communs. C'est-à-dire que finalement, tout le monde va s'intéresser à ce qui lui tombe sous les yeux et qui lui paraît le plus intéressant en fonction de ses propres goûts. Donc, certains travailleront sur la peinture, d'autres sur les possessions, etc. Et finalement, le groupe lui-même ne travaillera pas comme une équipe sur des objets spécifiques définis par un programme scientifique avant même le départ de cette mission.
C'est vrai, en fait, un des événements qui accentue un peu ce processus et qui mène à l'échec d'une collaboration, c'est la parution de l'Afrique fantôme, l'ouvrage de Michel Léris en
34, dont Marcel
Griol n'en avait pas lu le manuscrit, et ils se sont un petit peu trahis par Michel Léris, qui, bien qu'il avait publié deux extraits auparavant,
des extraits très choisis,
à travers l'Afrique fantôme, révèle des aspects de la mission que Marcel Griol aurait préféré taire.
C'est amusant parce que ça rappelle quand même quelque chose d'un peu plus postérieur. Vous connaissez l'histoire de Plozévet et de ce pays du pays Bigoudin qui a été exploré par justement beaucoup d'anciens explorateurs ou d'anciens ethnologues qui avaient travaillé en Afrique, et au retour des colonisations, on trouvait qu'il fallait travailler sur le territoire français.
Le terroir français comme terrain d'ethnologie.
Absolument. Et les dirigeants de cette mission de Plozévet se sont sentis trahis par Edgar Morin, qui a publié Les Métamorphoses de Plodémet, alors qu'il devait attendre théoriquement la parution du rapport final, ce qu'il n'a pas fait. On voit bien là, effectivement, que les individualités et les groupes, ça ne fonctionne pas toujours très bien, y compris dans la transdisciplinarité voulue et réclamée au départ, Éric Joly.
Oui, en plus, c'était, il y avait des personnalités extrêmement différentes. Il y avait des gens qui venaient de disciplines différentes, puisque c'était, encore une fois, l'idée, c'était la pluridisciplinarité. Donc, il y avait des linguistes, il y avait des naturalistes. C'est pour ça que le modèle aussi était un peu les grandes expéditions du 19e siècle. Mais il y avait aussi des personnalités très différentes. Ce qui est extraordinaire, c'est que, malgré tout, en fait, les quatre membres permanents qui ont fait le voyage de bout en bout, se sont relativement bien entendus sur quasiment 2 ans.
Ce qui est déjà pas mal. Quand on sait ce que c'est que partir 15 jours ou 3 semaines, effectivement, on s'imagine 2 ans, c'est très long. Un dernier mot à tous les deux. J'ai adoré cette expression du communiqué de presse anonyme du tout début, avant même que l'émission soit lancée. On veut faire une mission de grand style. Est-ce que vous avez réussi à savoir ce que c'était qu'une mission de grand style?
Oui, c'est les termes de Georges-Henri Rivière. En fait, c'est faire une mission prestigieuse, en fait, dans le vocabulaire de Georges-Henri Rivière, c'est ça.
Voilà, la mission de grand style, c'est donc Dakar, Djibouti, dont vous publiez donc Éric Joly et Marianne Lemaire aux éditions Les Cahiers, le cahier Dakar, Djibouti, donc signé de noms prestigieux, Griol, Léris, Lifshitz, Lutten, Mouchet, Roux et Scheffner. Et c'était la façon d'ouvrir notre semaine consacrée donc au voyage scientifique avec cette publication toute récente, mais vous allez parler de bien d'autres choses, Anaïs, dans cette semaine.
Oui, à commencer par demain, un documentaire sur un grand voyage initié en 1990 par des particuliers qui suivent un texte de Guillaume de Rubruck, qui est un moine qui s'envoie d'ailleurs lui-même, qui part seul visiter la Mongolie, et puis qui ensuite se verra commander un rapport par Saint-Louis sur cette Mongolie. Et ces gens-là, en 1990, au moment où l'URSS commence à quitter ces républiques satellites, décident d'aller redécouvrir ce pays, cette Mongolie,
Guillaume de Raybrouck en main, quoi.
Pour vérifier que rien n'ait changé depuis le XIIIe siècle. Et je vous propose d'ailleurs d'en écouter tout de suite un petit extrait.
Notre projet, c'était de réunir justement des compétences et de permettre que cette expédition, qui aurait pu être une balade entre copains sympathiques, permette un travail sur le terrain avec des spécialistes, un peu dans l'esprit de des grandes expéditions comme la Croisière Jaune, de monter une véritable expédition franco-mongole à la découverte des paysages que Rubruck avait découvert en son temps. Et selon les formations ou les compétences des membres qui ont été choisis pour faire cette expédition, chacun avait une mission particulière.
Il y avait cette idée de notre héritage de Guillaume de Rubruck, donc on avait un arrière-fond historique. L'Empire mongol allait donc de la mer de Chine et de la Corée jusqu'aux portes de Vienne à un moment donné. Donc c'était le plus grand empire qu'ait connu le monde. Et le mongol était une langue diplomatique à l'époque du XIIIe siècle.
Karakorum était au fond la seule certitude topographique irrécusable qui nous liait à la destinée de Guillaume de Rubruck.
Je n'avais pas de projet particulier, si ce n'est de voir comment un pays communiste pouvait évoluer dans cette campagne de Glasnost, de Perestroïka, de la Baltique jusqu'à ces régions.
Il est infiniment probable que Guillaume a passé, pour entrer en Mongolie propre, a passé par ce point où l'Altaï s'ouvre.
J'avais jamais vu de mes propres yeux un vrai désert, donc j'étais impatient. Et on avait cette grande étendue d'un désert de sable, mais avec ponctué de petits brins d'herbe. Et lorsqu'on nous a donné le feu vert pour partir, il fallait descendre. Et mon plaisir, c'est de laisser le cheval, de plus le contrôler. Donc le cheval partait au grand galop. Et donc après un long moment comme ça, on a les jambes qui brûlent, et on ne sait plus si la douleur est. Et c'est le cheval, ou si le cheval c'est le paysage, on ne sait plus rien, quoi.
Voilà donc un extrait du documentaire qu'on pourra entendre, réalisé par Anne Fleury et que vous avez concocté, Anaïs Quin, ainsi que le documentaire d'après-demain autour de la croisière jaune, c'est cela, à partir d'archives en particulier.
Directement inspiré par ce que disait un des témoins dans l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire que c'est ce groupe qui part en 1990 a évidemment en tête cette expédition Dakar-Djibouti, les expéditions de la croisière jaune et de la croisière noire de Citroën, et partent. Alors bien sûr, ce sera une expédition bien plus modeste et avec ses échecs également, puisqu'on part à la recherche d'un moine du XIIIe siècle pour finalement y trouver les reliques,
les décombres de l'Union soviétique.
Voilà, de l'Union soviétique, qui sont encore quand même très, très prégnantes. Et puis surtout, un voyage qui dure. Alors, pour la partie 1990, qui va se transformer en exploit sportif. Et puis, pour le documentaire de mercredi consacré à la croisière jaune, la préparation des entrepreneurs de ce voyage a nettement négligé de prendre en considération toutes les guerres civiles
qu'ils allaient croiser sur le passage.
Qui animent l'Asie centrale à ce moment-là, notamment au Kazakhstan, en Chine et d'autres.
Donc demain, la Mongolie 1990, après-demain, les croisières jaunes, et puis on remontera plus haut, 18e, 20e siècle, en parlant de Humboldt et de bien d'autres, jeudi, pour conclure cette semaine consacrée au voyage scientifique avec vous, Anaïs Quin. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Marie-Bona Bolivier et Aurélie Marcet. Ariane Hervé était avec nous à la technique et Anne Fleury à la réalisation. Vous pouvez écouter ou réécouter cette émission pendant 1000 jours, la télécharger sur le site de franceculture.fr ou laisser vos commentaires sur notre groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire. À demain.